Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Gisèle Cage.
Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans votre journal d'information sur Radio Kapi. Voici le principal titre de l'actualité. Mukwege relance les débats. 15 ans d'impunité, trop, c'est trop. Dans une déclaration choc, le prix Nobel de la paix dénonce l'inaction des autorités congolaises face aux recommandations du rapport Mapping de l'ONU sur les crimes graves commis entre 1993 et 2003 en RDC. Économie, la récente appréciation du franc face au dollar américain provoque une flambée des spéculations, perturbe les opérations de change et désoriente les ménages dans leurs dépenses quotidiennes. Invité du journal, Maître Olivier Ndole, une voix pour la justice en RDC, responsable de l'ONG ACDH à Goma. Maître Ndole revient sur le rapport Mapping de l'ONU, document clé sur les violations de droits humains en RDC entre 1993 et 2003. Un entretien à ne pas manquer. Denis Mukwege hausse le ton. 15 ans d'impunité, ça suffit. Ce mercredi, le prix Nobel de la paix brise le silence et relance le débat sur les crimes restés impunis en RDC. Dans une déclaration écrite, Denis Mukwege dénonce l'inaction des autorités congolaises face aux recommandations du rapport Mapping des Nations Unies, publié il y a 15 ans. Ces documents recensent les violations les plus graves des droits humains et du droit international humanitaire commises entre 1993 et 2003. Pour le docteur Denis Mukwege, le blocage est politique. Martial Papimukeba nous en dit plus.
Dans sa déclaration, Denis Mukwege rappelle que les rapports Mapping publiés le 1er octobre 2010 par le Haut Commissariat des Droits de l'Homme documentaient 617 incidents violents survenus entre 1993 et 2003 en RDC, impliquant notamment les Rwanda et l'Ouganda, et visaient à mettre fin à l'impunité. 15 ans plus tard, l'absence de mise en œuvre des recommandations est préoccupante. Aucune poursuite pénale ni réforme institutionnelle n'a été menée et des allégations de corruption affectent les fonds des réparation aux victimes, précise-t-il. Le prix Nobel avertit que cette impunité favorise la répétition des atrocités comme c'est le cas avec les M23. Il appelle la CPI à poursuivre ses enquêtes et propose la création d'un tribunal pénal spécial pour la RDC et des chambres mixtes pour juger les crimes imprescriptibles. Denis Mukwege invite les autorités, la société civile et les partenaires à exploiter tous les mécanismes de justice transitionnelle en fait d'assurer vérité, réparation et non-répétition. Seule une justice indépendante permettra de construire une paix durable en RDC, conclut-il. Béni, Martial Papimukeba, Radio Kapi.
Autre fait marquant dans l'actualité ce matin, un cri d'alarme depuis Kinshasa face au massacre qui endeuille l'Est de la RDC. Le ministre de Droits Humains appelle à une mobilisation continentale. Depuis la tribune du Forum africain sur la justice transitionnelle qui se tient jusqu'au 2 octobre dans la capitale congolaise, Samuel Mbemba exhorte les États africains à agir pour stopper ce qu'il qualifie de génocide. Il réaffirme l'engagement du gouvernement à renforcer et pénériser le système de réparation des victimes sur l'ensemble du territoire. Blaise Ndongala Mayanda a recueilli les propos du ministre.
Nous sommes réunis pour une cause qui transcende les frontières, les divergences politiques, les langues et les générations. Il s'agit du devoir de réparer l'irréparable, d'élever la mémoire des victimes à la hauteur de notre engagement politique et moral. Je vous remercie pour votre présence dans cette enceinte du dialogue à l'occasion de la 9e édition du Forum africain sur la justice transitionnelle organisée pour la première fois sur le sol congolais à Kinshasa. Votre participation témoigne de l'importance que vous accordez à une Afrique qui choisit la vérité, la justice, la réconciliation et surtout la dignité pour les victimes.
Ce forum, dont les travaux s'achèvent ce jeudi à Kinshasa, est une initiative de l'Union africaine menée en partenariat avec le gouvernement congolais via le ministère des droits humains. Quittons Kinshasa pour le Nord Kivu pour parler éducation. Près de 400 élèves de l'école primaire Kitaviro, dont le village Bingi, à 93 km de Butembo, poursuivent leur scolarité dans des conditions dramatiques. 6 salles de classe ont été réduites en ruine il y a quelques mois lors des affrontements entre les FARDC et le rebelle de l'AFC M23. Depuis, les enfants étudient à ciel ouvert ou sous des abris des fortunes dans une précarité qui interpelle. Un reportage signé Papi Martial Moukeba, rendu par Micheline Tchuala.
Située dans la sous-région de Kitsombiro, l'école primaire Kitaviro a été fortement touchée par les affrontements. 6 de ses salles de classe ont été complètement détruites par les bombes et sont désormais inutilisables. Actuellement, près de 400 élèves sont accueillis dans une école voisine uniquement l'après-midi, ce qui perturbe l'organisation des cours et affecte la qualité de l'enseignement. Les directeurs de l'école, Kambale Mirevo, alerte sur la situation, appelle à une intervention urgente des autorités et des humanitaires pour reconstruire cette infrastructure scolaire. Selon lui, la reconstruction de l'école primaire Kitaviro est une priorité afin de garantir aux enfants un environnement propice à l'apprentissage et protéger leurs droits fondamentaux à l'éducation. Signalons enfin que les différents affrontements entre groupes armés dans le territoire de Lubero ont déjà provoqué le déplacement de plusieurs habitants.
Économie. Ces derniers jours, le franc congolais s'est apprécié face au dollar américain, une variation qui n'est pas sans conséquence. À Kinshasa, cette fluctuation du taux de change alimente la spéculation et complique aussi bien les opérations de change que les achats du quotidien. Constat sur le terrain, signé Dona Madimba.
La parité franc-congolais dollar en RDC est vite passée de 2700 francs congolais le dollar dès le début de l'appréciation du franc congolais il y a 2 semaines à aujourd'hui 2500 francs le dollar, voire moins selon les humeurs et la tête du client. Outre cet exemple, il y a désormais aussi dans certains bureaux de change la rétention volontaire des devises, voire le marchandage de celles-ci. Ces bureaux prétextent la pénurie des devises, proposant au même moment aux demandeurs de passer l'opération s'ils acceptent une parité plus faible encore. Dans certaines opérations de dépenses quotidiennes, les commerçants qui acceptaient sans aucun problème d'être payés même directement en dollars refusent cette devise, exigeant de n'être payés qu'en francs congolais. Entre-temps, les prix de biens sur le marché n'ont pas encore été arrimés au nouveau pouvoir d'achat, tout comme personne ne sait pour le moment jusqu'où vont déboucher ces multiples taux de change, mais aussi leurs effets.
Dans la même veine, à Kisangani, la récente dépréciation du dollar américain face au franc congolais divise les opinions. Si certains saluent cette évolution, d'autres la qualifient d'artificielle, estimant qu'elle ne reflète pas dans les prix des produits sur le marché. Ces habitants de la ville, préoccupés par le coût de la vie, appellent les autorités à intervenir pour stabiliser la situation. Il s'est confié au micro de Jacques Mukonkole.
La plupart des Boyomés se demandent à quoi sert ce taux-là, à cette baisse-là des dollars. Concrètement, le prix n'a pas encore baissé. Ça n'a rien changé. On se demande, c'est avantageux pour les commerçants eux-mêmes. Aux autorités, d'accomplir leur mission de suivre ça de près.
Nous regrettons pourquoi le taux des dollars est baissé, mais le prix toujours standard. Les autorités doivent s'ingérer pour régler cette situation. Parce que l'État décide de rabattre les taux, mais lui ne contrôle pas.
Et quand il y a une inflation de la monnaie étrangère, ça doit nécessairement affecter les produits sur le marché. J'ai changé 100 dollars il y a 2 matins, mais à un taux bas, à 260. Pourtant, les prix des articles sur les marchés, c'est en rapport avec les dollars. Et quand les dollars descendent, enfin, il y a une déflation, il faut que les mêmes prix en francs puissent encore descendre. Mais les prix restent stationnaires, les dollars baissent, ça pose un problème.
Sur le marché, le prix n'a pas changé. Je demande à l'État congolais de continuer toujours à lutter sur ça pour qu'il y ait toujours baisse. D'ailleurs, c'est notre souci.
Ceux qui sont bénéficiaires, c'est peut-être les cambistes ou bien les banques. Parce que si le gouvernement a fixé à 2600, mais si vous partez sur le terrain, vous voulez vous procurer des dollars, on vous demande 2850-2900. Et le prix aussi au marché n'a pas baissé. Au contraire, ça a augmenté.
Pour boucler ce chapitre économique, les Lualaba interpellés sur l'exploitation artisanale ce mardi lors de l'ouverture de la session parlementaire de septembre. Le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba a lancé un appel fort. Les zones d'exploitation artisanale doivent être restituées aux créateurs locaux. Jean-Marie Kasséa dénonce les pratiques qui dépossèdent les exploitants artisanaux au profit d'intérêts expatriés et exhorte les autorités à agir pour rétablir l'équité dans le secteur minier. On écoute Jean-Marie Kasséa dans cet extrait sélectionné par Jean Gandou.
Nous mettons cette commission environnement de l'Assemblée provinciale ensemble avec le ministère. Vous devez travailler pour nous récupérer toutes ces aires-là. On a besoin des gouvernements provincial ainsi que l'Assemblée pour vous envoyer à Kinshasa au cadastre minier pour retracer toutes ces aires-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est honteux, nos frères, nos compatriotes, nos patrons à nous souffrent pas mal. Nous ne devons pas laisser passer cette situation comme ça. Il n'y a pas longtemps, les créateurs ont même pillé quelques magasins. Je pense que pour que nous puissions arriver à des solutions idoines, il est important que nous puissions nous tous nous impliquer pour retrouver ces EA. S'il faut les viabiliser, on doit les viabiliser. Nous avons un gouvernement provincial responsable.
Nord Kivu, à Mayangos, à une dizaine de kilomètres de Beni, un accord temporaire vient d'être trouvé entre les agriculteurs locaux, les riverains du parc national des Virunga et le responsable de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN. Ces compromis obtenus mardi après l'implication du gouverneur de province autorisent les populations à reprendre leurs activités agricoles à condition de ne cultiver que des produits vivriers et non pérennes en attendant une décision définitive. Cette entente survient après la destruction par les éco-gardes de l'ICCN d'une vingtaine d'hectares de champs dans la zone litigieuse de Tingitingi au village des Pakakombe Bakondo. Le chef coutumier Mwami Achudaibo, au micro de Marc Marofimbo, appelle à la retenue et à la vigilance.
Il nous a demandé de communiquer à la population d'être calme, de ne pas se laisser emporter par des messages d'intoxication, parce que lui-même a eu un échange avec le directeur de l'ICCN et en plus nous a demandé de communiquer aux agriculteurs victimes de ces destructions de rentrer dans leurs champs, de cultiver non pas des produits pérennes mais plutôt des produits vivriers. En attendant la présentation du rapport de la commission dans un grand forum qu'il est en train d'organiser d'ici là, qui pourra réunir les autorités au niveau national, local, afin de bien vouloir trouver une solution durable par rapport à ces conflits. Nous devons être attentifs et aussi obéissants pourvu que nous puissions finalement trouver une solution durable à ces conflits et arriver à une conservation participative et non policière.
Le chargé de communication de l'ICCN dans la région indique qu'une prise de position officielle interviendra après la publication du rapport du groupe consultatif des médiations et la tenue du forum de paix annoncé dans les prochains jours. Maniema, la saison de la chasse a réouvert ces mardis sur l'ensemble de la province après 3 mois de pause destinée à favoriser la reproduction des espèces. Le ministre provincial de l'environnement, Masumbuko Lutaka Fonsi, rappelle que tout chasseur ou vendeur de viande des brousses doit s'acquitter d'une taxe et détenir un permis en règle. Il insiste également sur la nécessité de protéger les espèces interdites à la chasse. Masumbuko Lutaka Fonsi, au micro de Florence Kizalunga.
Aujourd'hui, on ouvre la chasse dans la province du Maniema, mais on procède à cette ouverture dans le contexte d'évaluation de la mise en œuvre du calendrier de chasse. Pourquoi cet indicateur? C'est parce que nous voulons nous rassurer de l'effectivité de cette mesure, tout en recueillant les avis des différentes couches des parties prenantes au regard du constat de notre biodiversité actuelle. C'est à ce moment-là que nous pouvons projeter une mesure qui sera basé sur une évaluation multi-acteurs. En deuxième lieu, nous demandons à tous les chasseurs de payer la taxe provinciale sur la chasse. Même pour les vendeuses et les vendeurs des produits de la chasse doivent payer la taxe provinciale sur les permis d'achat et vente des produits de la chasse. Bien sûr, il y a l'ouverture, mais les animaux qui sont totalement protégés ne doivent pas faire l'objet de la chasse. Et c'est dans le cadre de la protection de la faune de la province du Mali.
Actualité internationale.
Au Nigeria, l'association des cadres du pétrole et du gaz naturel Pengasan a suspendu sa grève le 1er octobre après avoir obtenu la réintégration de 800 travailleurs licenciés de la méga raffinerie Dangote à Lagos. Ces employés avaient été remplacés par des expatriés principalement indiens, déclenchant une mobilisation dès le 29 septembre. Face au risque de crise énergétique, le gouvernement fédéral est intervenu rapidement après deux jours de négociations à Abuja. Le groupe Dangote a accepté de redéployer les travailleurs sans perte de salaire ni sanction. La grève avait perturbé la distribution des carburants et la production électrique nationale.
L'invité.
Invité du jour, Maître Olivier Ndole, une voix engagée pour la justice et la mémoire, responsable de l'ONG Alerte Congolaise pour l'environnement et le droit de l'homme ACDH basé à Goma. Maître Olivier Ndole revient sur le rapport mapping publié par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme le 1er octobre 2010. Ces documents recensent les violations les plus graves des droits humains et du droit international humanitaire commises en RDC entre mars 1993 et juin 2003. Entretien conduit par Grace Hamzati.
Maître Olivier Ndole, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Ça fait 15 ans depuis la publication du rapport Mapping. Quelle est, selon vous, la pertinence de ce rapport?
Je pense que la pertinence de ce rapport, c'est le fait que ce rapport existe et que ce rapport aussi atteste qu'il y a eu des violations massives des droits de l'homme qui, à mon sens, demandent une certaine réparation, mais aussi voudraient interroger, même si vous voulez, la performance judiciaire, non seulement par rapport à l'État congolais, mais aussi par rapport à la justice internationale. Donc, son importance, c'est le fait qu'il y a eu donc ces investigations-là avec plusieurs acteurs, que ce soit les acteurs au niveau interne comme au niveau international, même au niveau de l'ONU, qui ont attesté quand même qu'il y a eu des violations des droits de l'homme, que ce soit à rapport avec des vies humaines, à rapport avec des biens et même des entités d'intérêt public, et qu'il faut donc une justice, il faut une réparation, même si jusqu'à présent il n'y a jamais eu de justice, mais aussi réparation, mais quand même au moins il y a ces documents de référence qui existent.
Alors, la publication de ces rapports avait suscité un espoir dans le chef des victimes, des atrocités dans la partie est du pays notamment. Aujourd'hui, quelle est la perception que cette communauté ou que ces communautés peuvent avoir de la suite réservée justement à ces rapports?
Je pense que la perception actuelle, comme vous le savez, il y a encore d'autres violations qui s'accumulent. Et au-delà de ces violations, il y a aussi d'autres auteurs. Bien qu'il y a, par exemple, des États qui avaient été condamnés et qui sont en train de payer, par exemple, des réparations. Mais d'autres auteurs qui étaient de connivence avec ces États-là sont dans des institutions publiques actuellement. Et donc, toute cette situation couplée avec l'essor réservé à ces rapports, que ce soit au niveau national comme international, comme un silence beaucoup plus coupable. Je pense n'est là que pour renforcer un désespoir par rapport, si vous voulez, à toutes ces communautés qui ont crié que quand même ces rapports étaient un document référentiel, un document qui devrait leur servir d'outil en termes de recouvrement de justice, en termes de recouvrement de réparation. Donc les gens sont un peu en désespoir, mais voilà, actuellement encore il y a d'autres violations et plus jamais qu'il y ait quand même des aspects liés à des primes à la guerre, donc il faut stopper.
Et qu'est-ce que vous appelez prime de guerre?
Prime de guerre, comme vous le savez, ça fait plus, je crois, de 30 ans que dans notre société congolaise, qu'il y a eu des gens qui actuellement sont en bonne santé politique du fait qu'ils ont été des chefs de milice, qu'ils ont fait des rébellions. Et à travers, si vous voulez, ce processus-là, ça a créé une certaine valorisation des acteurs qui font la guerre pour entrer dans les institutions. Ils sont nombreux. Quand l'ancien président de l'Assemblée disait qu'il faut que des députés quittent les groupes armés, il s'agit partie de cela, parce qu'on a érigé la violence à un programme politique, les gens ont érigé les armes à un programme politique pour accéder à des postes de responsabilité. Et ça, je pense que ce qui fait que la RDC ne puisse pas avancer. Il y a des gens qui peuvent faire tout ce qu'ils peuvent, ils peuvent détourner de l'argent, mais comme on a peur de que s'ils sont limogés, ils vont commencer la guerre, on s'était, et d'autres qui sont pacifiques, qui n'érigent pas la violence en mode de programme politique, ils sont poursuivables. Je pense qu'il faut que cette politique cesse.
Qu'est-ce que vous recommandez pour que les recommandations contenues dans ces rapports soient réellement mises en exécution?
Il faut suffisamment une volonté politique. Il faut aussi une mobilisation au niveau international. Parce qu'on vous le savez, la question judiciaire, la question des réformes juridiques institutionnelles doivent beaucoup plus avoir une politique sensible par rapport à la lutte contre l'impunité, mais aussi une politique sensible par rapport à la vie humaine. Donc il faut vraiment cette mobilisation de tous les acteurs pour que l'on puisse évaluer par rapport à toutes ces recommandations, lesquelles ont déjà eu des réponses et lesquelles n'ont jamais eu de réponse et pourquoi les réponses tardent à venir, mais aussi tous ceux qui ont trouvé une santé politique par rapport à la violence qu'ils ont démontrée comme étant leur programme politique puissent quand même se repentir et puis subir la rigueur de la loi et faire réparation à toutes les victimes.
Maître Olivier Ndolé, je vous remercie.
C'est à moi de vous remercier.
Maître Olivier Ndolé, responsable de l'ONG Alerte Congolaise pour l'environnement et le droit de l'homme basé à Goma. Il revenait sur les enjeux du rapport Mapping et la nécessité de justice pour les victimes des violations graves commises en RDC entre 1993 et 2003. Ainsi s'achève ce journal d'information. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Restez connectés à Radio Okapi pour la suite de l'actualité.